Radio Okapi. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de ce journal, les travaux de réhabilitation de la route Kananga-Kalamba-Mbunji avancent sans désemparer. Long de 230 km, la route Kananga-Kalamba-Mbunji constitue un axe stratégique pour le désenclavement du Grand Kasaï. La ministre d'État de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a ouvert ce mardi à Kinshasa la 13e édition de la Semaine de la Science et des Technologies. Placée sous le thème « Au cœur du geste technique », cette édition a installé son village des sciences à l'Institut de la Gombe. Les négociations entre le gouvernement congolais et la rébellion de la FCM23 ont repris ce lundi 13 avril à Genève, en Suisse. Il s'agit du 9e round de discussions entre les deux parties après plusieurs semaines d'arrêt. Cette thématique était au centre des échanges entre les participants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mardi. Vous les suivrez tour à tour au micro de Guy Matetsongo. Encore une fois, bonjour à tous. Les travaux de réhabilitation de la route Kananga-Kalamba-Mbunji enregistrent des avancées significatives. C'est ce qu'indique l'Agence congolaise des grands travaux ACGT, chargée du suivi et de la supervision de ce projet pour le compte du gouvernement congolais. À ce jour, l'axe routier est praticable sur toute sa longueur et les travaux de modernisation ont déjà porté sur 40 km, soit 17,3% du taux d'exécution. Les détails dans ce reportage d'André Katinde Ngalamulume.
Longue de 230 km, la route Kananga-Kalamba-Mbunji constitue un axe stratégique pour les désenclavements du Grand Kasaï. Elle facilite notamment les échanges commerciaux avec l'Angola à travers les ports de Lobito. En terre battue, cette route est praticable sur toute sa longueur depuis 2025. Selon Serge Diboué, chef des missions de surveillance du projet au sein de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT, les travaux de modernisation connaissent une avancée significative. À ce jour, 40 km ont déjà été modernisés à partir du point de départ situé à Matamba.
On a terminé avec les travaux de praticabilité. En termes de modernisation, nous avons déjà fait 20 km de béton bituminé, 30 km de couche de base et 37 km de couche de fondation. Vous pouvez faire 40 km sans avoir vu la terre.
Serge Duboué précise par ailleurs qu'il est désormais possible d'effectuer un aller-retour sur les tronçons Kananga-Kalamba-Mbunji en une seule journée. Il rassure enfin que toutes les dispositions sont prises pour que les travaux soient achevés d'ici fin 2027, conformément aux engagements pris par le gouvernement central. Kananga, André Katendengalamulume, Radio Okapi.
Tandis qu'à Kinshasa, dans la commune d'Engaba, l'avenue Université entre l'arrêt Kikuit et le rond-point Yolo est dans un état de dégradation avancée. Trous, eau stagnante et tas de déchets compliquent la circulation. Les chauffeurs évitent ce tronçon, obligeant la population à marcher longtemps pour trouver un moyen de transport. Une situation difficile à vivre. Le point avec Magloire Lando.
Sur l'avenue Université entre la rue Kikuit et le rond-point Yolo, la route est fortement abîmée. Le nombreux trous rendent la circulation difficile et contraignent les habitants à parcourir de longues distances, parfois jusqu'à la rue Capella 2 pour trouver un véhicule.
La route s'est vraiment abîmée, c'est depuis longtemps, ça fait au moins, on peut dire, une année. En tout cas, les gens souffrent ici le matin pour les transports, pour quitter l'avenue qui coûte pour arriver, caper la route. En tout cas, c'est vraiment trop difficile. De l'autre côté là, il y a les salités qu'on a eu, je ne sais pas où on est venu laisser ça là-bas. Je ne sais pas, c'est pour arranger la route ou bien pour abîmer encore la route. Que nos autorités vraiment puissent penser pour cette route.
De tas de déchets déposés par des inconnus bloquent également le passage. Un chauffeur mécontent de la situation décrit les difficultés rencontrées au quotidien.
Cette route n'était pas comme ça avant. Mais avec les pluies qui tombent petit à petit, elle se détériore. Nous souffrons beaucoup à cause de cette route. Les véhicules n'arrivent presque plus à passer. Ce sont surtout les motos qui réussissent à circuler avec beaucoup de difficultés. Quand il pleut, c'est encore pire. Parce que la route est impraticable et des accidents se produisent souvent à cause de ce mauvais état. Nous souhaitons qu'une solution soit trouvée pour cette situation.
La population appelle les autorités à intervenir rapidement pour réhabiliter cette route.
un drame s'est produit dans le Congo central. Un boy chauffeur a trouvé la mort écrasé par les véhicules qu'il tentait de dégager d'un bourbier. Alors qu'il s'est trouvé sous le camion embourbé, le chauffeur a engagé la marche arrière, oubliant que son aide était encore sous le véhicule. Le convoi venait de Sadi, dans le groupement de Makuta, secteur de Kulungongo, territoire de Mbanzangongo, en direction de Kinshasa. Selon Victor Nzuzi, président de la coopérative agricole Luzololo Toma, le bourbier se situe dans la concession de Jivel Sogenac sur une route censée être, selon lui, entretenue par cette société en sous-traitance. Ce drame, souligne Victor Nzuzi, relance la question de la suspension des cantonniers étatiques dans l'entretien des routes des dessertes agricoles. On écoute Victor Nzuzi, joint par Alain Hirung.
Pourquoi il n'y a plus de cantonniers sur nos routes? Pourquoi? Pourquoi il n'y a plus de cantonniers? Et les entreprises qui prennent des grandes concessions et qui ne font plus ces routes. Et pourtant, à un certain moment, ces entreprises faisaient les routes et donnaient la facture à l'État. Est-ce que l'État ne payait pas? C'est vraiment révoltant, quoi. C'est révoltant. Cette route-là est dans le groupement de Makuta, mais c'est à côté de l'itinérant voisin. Maintenant, quand vous entrez dans la concession de la Jivel, vous vous imaginez, hein, deux grandes concessions. Concession de l'itinérant voisin et directement, après 2 kilomètres, vous entrez dans la concession de la Jivel. Et cet accident, c'est dans la concession de la Jivel Sogenac, à peu près à 3 kilomètres de l'itinérant voisin. Non, c'est vraiment malheureux. Et l'État ne revient pas avec les cantonniers sur la route. Et sur cette route-là, ce sont les paysans et même les Sadi qui essayent d'entretenir la route. Et même le paysan qui viennent jusque même à l'INERA, qui essaie d'entretenir. Mais comme ce sont des vallées, le sol est tellement meuble. À la moindre pluie, tout ce qu'ils ont fait comme travail est parti. Non, c'est révoltant. C'est vraiment révoltant. Alors qu'à l'époque, il y avait des cantonniers.
En Ituri, 4 morts dans une fusillade survenue la nuit de lundi à mardi dans la ville de Bunia, au quartier Bankoko. Selon la police, un militaire des FARDC, auteur de ces drames après son forfait, s'est également donné la mort. Un conflit conjugal serait à la base de cet incident malheureux, indique la police. Une situation qui a créé la psychose chez les riverains. Les détails avec Martial Kiza Biamongo.
Ce drame s'est produit vers 21h heure locale au quartier Bankoko, plus précisément vers les ronds-points Erzaïr. Selon la police nationale congolaise PNC, un militaire de 2e classe en état de débriété s'est disputé avec sa concubine de 32 ans avant de lui tirer un coup de balle à bout portant et sur son fils d'environ 11 ans. Tous sont décédés sur le champ. Comme cela ne suffisait pas, cet homme en uniforme, blessé de guerre de son état, a ensuite tiré plusieurs coups de balle dans différentes directions, dont une va toucher une de ses colocatrices à la quarantaine, qui est également morte sur place avant de se donner la mort par une balle à la tête, ce qui a créé la psychose parmi les habitants à Bankoko. La police appelle les populations à se désolidariser des militaires incontrôlés, plusieurs fois auteurs des exactions contre les civils. Les porte-parole de la PNC et ville de Bounia, le colonel Abeli Mwangu.
Nous rappelons à la jeunesse du quartier Bakoko d'éviter de consommer du chanvre affumé et des boissons fortement alcoolisées.
Plusieurs structures de la société civile urbaine appellent les autorités de la 32e région militaire à procéder à la saisie de toutes les armes détenues par des militaires en errance pour prévenir des cas similaires dans l'avenir. Bounia, Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
La 13e édition de la Semaine de la Science et des Technologies a été ouverte ce mardi à Kinshasa par la ministre d'État à l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Placée sous le thème « Au cœur du geste technique », cette édition a installé son village des sciences à l'Institut de la Gombe. Des structures agricoles, des centres de recherche, des écoles, des universités, ainsi que des entreprises publiques et privées y ont érigé des stands. Organisés par la SBL Investing In Paypal, cette activité vise à promouvoir les connaissances scientifiques, le savoir-faire et l'innovation technologique. Les détails avec John Chibouaboua.
Dès l'entrée de l'Institut de la Gombe, des longues files de visiteurs se forment devant des différents stands. Ici, la compétition autour du savoir anime la Semaine de la Science. Best Ovungu attire l'attention avec sa poubelle intelligente.
Elle a la possibilité de détecter la présence des gens, de signaler ou de se bloquer lorsque la poubelle est pleine.
Le centre de recherche recherche en ressources en eau du bassin du Congo de l'Université de Kinshasa présente pour sa part une solution innovante pour la gestion durable de l'eau. Robin Mayoni, responsable de la communication, en explique les contours.
Prochaine guerre qui peut être des guerres de l'eau, il est grand temps pour la RDC de se doter des experts qui doivent gérer cette ressource. Voilà pourquoi l'école régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa et le centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo mènent des recherches et forment les experts capables de gérer cette ressource.
Au milieu des centres de recherche et des universités, Prince Elka, spécialiste dans la restauration, expose également son expertise.
Ici, en fait, ce qu'on met en valeur, c'est les gestes techniques. La façon de découper, de dresser mon assiette, tous ces gestes techniques qu'on fait avec les mains. Étant donné que les thèmes, c'est au cœur des gestes techniques, je pense que nous aussi, dans la restauration, nous sommes au cœur
de
ces gestes.
Profitant de la visite des stands, le ministre Raissa Malou, Thérèse Sombo et Patrick Mouyaya ont échangé avec les exposants.
Au Maniema, une centaine de femmes ont bénéficié de quelques kilogrammes de soude caustique, de l'huile de palme et d'autres ingrédients pouvant leur permettre de fabriquer du savon. Une initiative de la Ligue des femmes du parti politique Union pour la Nation Congolaise, UNC Maniema. Pour la présidente intérimaire interfédérale, ces gestes visent à rendre ces femmes indépendantes financièrement. Florence Kizalunga, reportage.
Une fois formées, ces femmes seront indépendantes et pourront résoudre certains de leurs problèmes politiques afin d'éviter d'être plaignicheurs, d'après Thérèse Nialoutala, présidente intérimaire interfédérale.
Vu que la femme politique traverse plusieurs difficultés financières, c'est ainsi que nous avions songé à autonomiser les femmes de l'INC Maniem, à les doter de soudes caustiques, l'huile palmiste, y compris aussi les ingrédients pour préparer les savons à base de Cela lui aidera la femme d'être autonome sur le plan financier pour qu'elle puisse réaliser ses activités politiques sans difficulté.
La division du genre félicite cette initiative de l'UNC Maniema qui pousse ces femmes à être autonomes. Edwin Luzinga.
Vraiment, c'est un geste encourageant. C'est une leçon type aux autres mamans à ce qui concerne l'autonomisation. De ce fait, je lance alors mon message d'encouragement à la maman Nialoutala Thérèse qui vient de se comporter de cette manière pour encadrer les mamans à ce qui concerne l'autonomisation.
Signalons que cette initiative tire son origine du thème pour le mois de la femme de cette année qui promeut l'autonomisation de la femme. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
L'administrateur du territoire de Fizi alerte sur la recrudescence de deux maladies meurtrières dans sa juridiction. La rougeole tue les enfants de 0 à 6 ans dans le secteur d'Enganja, tandis que les adultes souffrent de la tuberculose pulmonaire, particulièrement les creuseurs artisanaux qui exploitent les minerais dans une profondeur comprise entre 10 et 60 mètres de hauteur. Sami Badibanga sollicite l'intervention rapide de l'autorité sanitaire pour une prise en charge adéquate. On écoute l'administrateur du territoire de Fizi, Sami Badibanga, au micro de Jean Kassami.
Sur le plan sanitaire, dans les groupements de Basikasilo, au secteur d'Enganja, dans le village Lulimba, Misisi, Lubichako 1, Lubichako 2 et Inyanke, les enfants dont l'âge varie entre 0 et 6 ans sont atteints de la rougeole et l'on signale la présence de plusieurs décès. Et du côté adulte, il y a une mortalité en croissance causée par la tuberculose pulmonaire. Cette maladie contagieuse décime en silence surtout les creusers de puits d'or qui utilisent souvent les explosifs appelés capata. Nous demandons au gouvernement provincial et aussi aux partenaires humanitaires qui œuvrent en territoire de Fizi d'apporter les assistances aux malades et surtout équiper les formations sanitaires du territoire de Fizi qui sont en rupture de produits pharmaceutiques il y a 5 mois.
Il convient de noter que Médecins Sans Frontières, qui approvisionnait les institutions sanitaires en intrants dans les territoires de Fizi, s'est désengagé à cause des contraintes sécuritaires. À l'occasion de la Journée internationale de l'enfant de la rue, célébrée le 12 avril dernier, le réseau pour les droits de l'homme REDO tire la sonnette d'alarme face à la montée du phénomène des enfants vivants dans la rue de Butembo au Nord Kivu. La plupart orphelins ou déplacés de guerre vivent sans encadrement et sont de plus en plus exposés à la délinquance. Le coordonnateur du REDO, une organisation basée dans la région Mwindo Wasiviniwa, déplore l'absence dans la ville d'un établissement de garde pour l'éducation de l'enfant âgé, pourtant essentiel pour la prise en charge et la rééducation des mineurs en conflit avec la loi. Il appelle les autorités compétentes à procéder à sa construction. Mwindo Vasiviniwa est au micro de Martial Papimukeba.
Certains enfants de la rue qui commettent des manquements deviennent parfois récidivistes puisqu'il n'y a pas un établissement de garde pour l'éducation de l'enfant aîné à ville de Butembo qui pouvait contribuer à leur rééducation. Pour un monitoring mené au Grand Nord Kivu, c'est-à-dire auprès du tribunal pour enfants de Beni, tribunal de paix de Butembo faisant office du tribunal pour enfants, ainsi que du tribunal de paix de Lubero faisant office du tribunal pour enfants dans cette entité, sur un total de 379 dossiers enrôlés pour l'année 2025 dans les trois tribunaux pour enfants, 7% seulement la ville de Butembo et le pourcentage des dossiers d'enfants jugés ou avec décision. L'absence d'un établissement de garde pour l'éducation de l'enfant est à la base d'un faible taux de décision dans les dossiers des enfants. L'État doit construire un établissement de garde pour l'éducation de l'enfant à ville de Butembo.
Nous n'avons pas pour le moment obtenu la réaction des autorités judiciaires de la ville de Butembo.
Actualité internationale.
Le Soudan entre mercredi 15 avril 2026 dans sa quatrième année de guerre. Le 15 avril 2023, démarrait à Khartoum, la capitale, les affrontements entre l'armée et les forces de soutien rapide FSR des paramilitaires. Il y a environ un an, la capitale a été récupérée par les forces armées soudanaises. La bataille a duré deux mois et l'occupation de la ville par les FSR a laissé des stigmates durables, comme dans les quartiers d'Omdoum, dans la banlieue est de la capitale.
L'invité.
Les négociations entre le gouvernement congolais et la rébellion de l'FCM23 ont repris ce lundi 13 avril à Genève en Suisse. Il s'agit du 9e round de discussions entre les deux parties après plusieurs semaines d'arrêt. La reprise de ces pourparlers a été au centre des échanges entre les participants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mardi. On les écoute au micro de Guy Maté Tsongo.
Juvenal Munubu Mubi, vous êtes avocat et cadre de l'HDC, parti membre des Unions Sacrées de la Nation. Vous êtes député national honoraire et analyste des questions de l'Est de la RDC. Que pensez-vous de la reprise des négociations entre le gouvernement congolais et la rébellion de l'FCM23?
Il était important de conclure ces pourparlers parce que le principe est simple. Quand on a commencé des discussions sur une question importante comme la question de la paix, eh bien, il fallait conclure. Et là, ça me permet de rappeler que les processus de paix à l'est du Congo a deux volets. Il y a le volet externe, c'est-à-dire le volet régional qui est porté par Washington, l'accord de Washington. Et puis, il y a le volet interne, on peut dire ça, qui est Doha, c'est-à-dire des discussions directes entre le gouvernement de la RDC et la FCM23. Parce que le volet régional, le volet externe, c'est entre le gouvernement de la RDC et le Rwanda. Et vous avez vu que par rapport au volet régional ou au volet externe, on a plus évolué sur des questions économiques. En fait, les deux processus sont liés. On ne peut pas uniquement continuer à discuter sur les 6 autres protocoles. Il y a les mécanismes de libération des détenus qui a été signé comme protocole, mais aucun détenu n'a été libéré. Et puis le cessez-le-feu qui a été signé, mécanisme, j'ai dit, mais aucun cessez-le-feu n'est observé sur terrain. Et après les deux protocoles, il y a 6 autres. Notamment l'accès humanitaire. Il y a par exemple la question de l'aéroport de Goma. Il faut qu'on en discute en Suisse. C'est une urgence. La question de restauration de l'autorité de l'État, cela est très important. La question des gouvernances participatives. Pour la question de la restauration de l'autorité de l'État, il y a tout ça. Les banques qui doivent ouvrir. Et il y a pas mal de questions. Libre circulation des personnes et des biens. Les avocats, les magistrats qui doivent bien faire leur travail, etc. Et puis, il y a un autre protocole qui doit être négocié là-bas, c'est le DDR. La question du DDR. On fait quoi avec le DDR? Il y a une autre question là-bas, identité citoyenne, mais il faut qu'on précise ce que ça veut dire, identité citoyenne.
Merci. Bob Kabamba, vous êtes politologue et professeur à l'Université de Liège en Belgique. Quelle est votre lecture de la reprise des négociations entre les gouvernements congolais et l'AFC M23?
Merci beaucoup pour la question. En 9 rounds, on peut dire qu'on est pratiquement nulle part, parce que depuis que ça a commencé, on n'a pas du tout avancé. Et tout ce qui a été signé de différents niveaux, c'est qu'il n'y a pas eu d'effet de ces différentes signatures. Et donc, on tourne en rond. On gagne du temps parce que c'est le procédé qui a été privilégié aussi bien par Kinshasa que par Goma.
Et si, comme vous le dites, les deux parties sont en train de jouer sur le temps, ça peut être avec quel objectif, professeur Bob Kabamba?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le temps, ça veut dire quoi? Au niveau de Kinshasa, nous sommes en 2026. En étant en 2026, nous devons avoir des élections en 2028 pour respecter, on va dire, le délai constitutionnel. Or, par rapport à la feuille de route qui a été publiée par la CENI elle-même, et lorsque j'ai lu le communiqué venant de la CENI elle-même, en fonction de ce calendrier, en fonction du retard qui a été constaté, donc on peut mettre une croix sur 2028. Alors, si on met une croix sur 2028, il est impératif d'avoir un motif, une justification par rapport à la population, pour l'expliquer pourquoi on n'a pas respecté le délai de 2028. Alors, la réponse sera très simple, parce que tout simplement, il y a le problème de l'Est avec les discussions qui s'en suivent. Alors, du côté de la rébellion aujourd'hui contrôle plus ou moins entre 50 et 60 000 km² de superficie à l'Est du Congo. Et ils gèrent plus ou moins entre 10 000 et 12 millions d'habitants dans cette surface. Donc, ils sont dans une dynamique d'étatisation de la zone qui est contrôlée. Quand on est dans une zone d'étatisation, vous avez besoin de temps pour consolider votre étatisation.
Merci. Placide Nzilamba, vous êtes secrétaire technique de la coordination de la société civile du Nord Kivu. Comment vous réagissez à la reprise des négociations entre le gouvernement congolais et l'AFC M23?
Pour nous, d'abord, c'est une surprise. Parce que tout simplement, on pensait que ça, on y a mis fin. Imaginez-vous, on nous dit qu'on est au 9e
round.
On dirait que c'est un jeu de boxe ou c'est quoi. Donc, c'est étonnant de voir un problème qui dure 30 ans aujourd'hui, mais les gens spéculent sur la solution. Et ce genre de tâtonnement dans la recherche de la solution, nous pensons que ce sont des erreurs fatales qui jettent déjà le discrédit sur ce qui s'est fait. Est-ce qu'on statue sur les vrais problèmes ou qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce qu'on comprend qu'il y a une population qui est meurtrie du jour au jour? Est-ce qu'on a l'intention de faire la paix? Ce sont ces questionnements devant lesquels nous sommes et nous nous disons, au lieu de gaspiller tout le fond dans ça, je crois qu'il faut imaginer d'autres solutions en dehors de cela, parce que c'est une distraction, ça je vous dis.
Quelles sont les solutions qu'il faut imaginer?
Non, il faut bien étudier les intérêts et savoir les répartir.
Voilà qui met fin à cette édition du journal du matin, coordonnée et supervisée par Jude Mister Bilan Dankoumar et mise en onde des mains des maîtres par Pierre Diassinois. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.